niveau. Donc, les Iroquois étaient évangélisés aussi par les Français. Et il y avait donc il y a des martyrs, donc le père Chabanel aussi, qui était des martyrs, Et il avait un cœur tellement grand, il aimait tellement, il avait un cœur plein d'amour, donc que les Iroquois, par dignité, par respect pour ce missionnaire, eh bien, lui ont mangé le cœur. Parce que c'était pour eux une façon de s'approprier l'amour de ce missionnaire. Donc voilà une conscience invinciblement érodée. Bon. Là, vous avez tous compris. Bon. Deuxième exemple. Hein. Exemple beaucoup plus actuel. Donc la semaine dernière, nous étions, il y a 15 jours aussi, dans les débats bioéthiques. Et nous n'avons pas fini d'être dans les débats bioéthiques. Donc, un député de l'Ardèche qui s'appelle Olivier Dussopt, donc c'est, on peut dire, distingué à l'Assemblée nationale, c'est le plus jeune député du Parlement français, il n'a pas 30 ans, et il y avait donc un débat sur un amendement au sujet justement du dépistage pour les trisomiques. Et donc, il y a un député UMP qui a dit que à la suite du dépistage, 96% étaient avortés. Alors notre député, qui est très brillant certainement dans les sciences politiques et tout, a dit, moi la question que je me pose, pourquoi 4% sont encore là? Alors il n'a pas tout à fait dit comme ça, mais enfin bon, donc tout de suite, dérapage, donc il a reçu plusieurs courriers. Je lui ai écrit aussi, bien évidemment. Je lui ai écrit quand même à plusieurs aussi. Et j'ai dit à monsieur le député de l'Ardèche, puisque je suis aussi de l'Ardèche, donc j'ai fait valoir mes titres de modérateur. Bon, il faut de temps en temps faire valoir. Bon, d'habitude, je dis que je suis un supérieur mineur, mais donc là, j'ai dit que j'étais modérateur. Il m'a répondu 2 heures après. Donc, ma lettre l'a interpellé. Alors je lui ai dit que oui, avec pas mal de personnes, j'avais été quand même assez bouleversé par son expression. Je lui ai parlé du professeur Jérôme Lejeune, je lui ai parlé donc de la dignité personnelle de ces enfants trisomiques et que je sais qu'il avait fait une autre mise au point après parce que ce n'était pas tout à fait la pensée qu'on a voulu lui faire savoir, donc que je n'avais pas son discours et que j'aimerais bien l'avoir. Alors, il m'a répondu 2 heures après pour me remercier de mes propos mesurés, mais le contenu était quand même ferme. Et alors c'est là où j'ai été vraiment, j'ai dit, ben voilà, on est en présence d'une idéologie qui ne voit plus le bien du mal. Et il m'a dit, mais moi j'ai de l'estime pour les personnes qui accueillent un enfant trisomique, j'ai de l'estime, mais je ne comprends pas. Et il me donnait l'exemple, il a dit, mais puisque la science nous dit que, la question que je me pose, pourquoi y en a-t-il qui garde cet enfant, puisque la science me dit qu'il va être trisomique. Donc, c'est là qu'on voit que nous sommes en présence d'une crise de la conscience très grave, hein, ce que disait Jean-Paul II dans l'Évangile de la vie. Donc, c'est grave déjà de voir le nombre d'avortements dans le monde. Est-ce que vous vous rendez compte que l'année dernière en Chine, il y en a eu 24 millions. 24 millions d'avortements, c'est effrayant. Eh bien, Jean-Paul II dit, le plus grave encore, c'est qu'on a perdu le sens du mal, on a perdu le sens du bien, on a complètement perdu le sens de la conscience. Donc cela nous montre que justement, il nous faut travailler à reconstruire la conscience. Et cela nous montre aussi l'urgence de l'éducation, comme on en avait parlé il y a 2 ans. C'est absolument urgent, urgent, urgent. Parce que si les adolescents, les enfants, les adolescents, les jeunes ne sont pas éduqués dans leur conscience, que feront-ils demain, hein? Alors on voit cela, bien sûr, on parle toujours des problèmes de la vie, on parle des problèmes de l'amour, mais parlons des problèmes économiques. Hein, tout cela aussi, nous voyons à quel point le problème de conscience et vérité est un problème majeur, fondamental aujourd'hui. Voilà. Alors là aussi, je pense qu'il est important de, comme je l'ai dit tout à l'heure, la conscience n'est pas un GPS. Voilà. Donc elle ne fonctionne pas comme ça, naturellement. Il faut que, d'abord, le niveau supérieur, on peut dire les grands principes de la moralité soient bien imprimés en nous. Et le père Caillon disait, l'enfant est achevé d'imprimer à 5 ans. Oui. Hein? Donc si l'enfant n'a rien reçu et qu'on commence le catéchisme ou la formation à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, c'est une catastrophe. Ensuite, il faut savoir avoir appris, parce que cette première déduction des grands principes, elle ne s'invente pas. Il y a un patrimoine moral, patrimoine dans l'Église, patrimoine dans l'humanité, donc ça aussi, ça se reçoit par une éducation. Et donc le troisième niveau, le jugement prudentiel, ne peut fonctionner que si la Sainte Thérèse a été bien droite, que si le jugement ensuite au premier niveau a été bien fait, et c'est que ainsi qu'on pourra vraiment reconstruire complètement la conscience. Voilà. Alors, est-ce que des personnes veulent ajouter, je serais content si Pierre-Yves, oui, les Pierre-Yves. Oui, parce que Pierre-Yves fait un master sur la conscience morale chez Saint Thomas d'Aquin. Alors, et donc, il vient de finir son master là-dessus. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose que nous n'aurions pas dit? Ou est-ce que tu es d'accord avec ce que l'on a dit? Mais maintenant, allez-y, les questions très concrètes, pratiques, tout ce que vous voulez dire, maintenant, il faut le partager. Voilà, Marie. Alors, non, la conscience, c'est une faculté de l'âme. Hein? C'est-à-dire que l'être humain est un corps animé par une âme spirituelle. C'est un tout, hein, c'est un tout substantiel. L'âme et le corps, bon. Et cette âme spirituelle a des facultés. Elle a une intelligence, elle a une volonté, elle a un cœur. Voilà, ça c'est, on va dire, c'est l'âme. Alors l'intelligence a donc une conscience psychologique et une conscience morale. Et ensuite, c'est parce que d'abord, nous connaissons, hein, commençons d'abord par connaître. Hein, bon, le petit enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, eh bien, sa conscience morale n'est pas développée. Mais il commence à connaître papa, il commence à connaître maman, il commence à connaître bambou, il commence à connaître le petit chat, il commence à connaître les objets, il commence à faire des jugements. Ça, c'est l'intelligence qui se développe. Et puis ensuite, la conscience morale, donc, c'est le jugement qui ensuite porte sur le bien et le mal. Voilà. Hein? Donc ça fait partie d'une faculté de l'âme. Et ensuite, ma volonté va se décider pour tel acte parce qu'elle a été éclairée par la conscience. Voilà. Vous voyez, c'est important de réfléchir à tout cela. C'est important.
Et le cœur de l'âme.
Alors le cœur, ben, c'est tout ce qui est l'affectivité, c'est tout ce qui est l'amour. Hein, parce que là aussi, bon, il y a diverses philosophies. Hein, bon, dans la philosophie qui est alimentée aussi par la foi, eh bien, pour nous mettons une certaine priorité au cœur. Vous voyez, la raison froide, eh bien, c'est pas le cœur. Donc l'homme, ce n'est pas qu'une raison. Hein, voilà, c'est un cœur qui aime. Voilà, et l'amour, c'est aussi la volonté.
Et dernière question, comment éduquer sa conscience? Quand on parle d'éducation de la conscience, en fait, ça consiste en quoi?
Eh bien, d'abord, vous venez à une forum, vous venez à une session, vous avez le catéchisme, vous avez normalement, à l'école dite laïque, on devrait avoir des cours civiques. Quand j'étais petit, quand on rencontrait M. le maire, on enlevait son casquette ou son chapeau et on disait bonjour. Et quand on était dans le train, on laissait sa place à un adulte. Tout ça, ça devrait être appris. Aujourd'hui, on vous parlera simplement de vos droits.
Voilà. J'ai une question pratique. Pour la fin de vie, pour l'euthanasie,
oui.
Si on est face à une personne qui est déjà démente, pour la fin de vie, si on est face à une personne qui est déjà démente, donc qui visiblement n'a plus de conscience, en tout cas ne l'exprime plus. Qu'il y a des gens en face de nous qui vont nous dire elle souffre énormément, ça se voit physiquement et c'est sûrement vrai. Pourquoi est-ce un mal de l'euthanasie, enfin, ou au moins d'abréger rapidement ses souffrances en lui mettant la morphine? C'est un bien parce qu'on soulage sa souffrance. Et en plus, alors nous on pourrait lui objecter, oui, mais elle va mourir en n'étant pas consciente. Ils vont nous dire, mais aidez donc de toute façon.
Donc on revient là sur le concept de dignité de la personne dont je vous ai parlé au début. C'est-à-dire, l'absence de conscience n'enlève pas la dignité de la personne. Voilà. Alors donc c'est pour ça que la question d'euthanasie, d'avortement, nous sommes en face de la dignité de la personne. C'est-à-dire que la personne humaine a cette qualité qu'elle est, je reparlerai demain, elle n'est pas moyen, elle est fin, elle a été voulue par Dieu pour lui-même, et elle est sujet, elle n'est pas objet. Donc toute personne humaine a cette dignité personnelle, et aucun être humain ne peut abréger sa vie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, on voudrait jouer sur la question de la conscience. On voudrait dire, celui-là, il a droit à vivre parce qu'il a sa conscience, celui-là n'a pas droit à vivre parce qu'il n'a plus sa conscience. Eh bien non. Là, on est en face de la dignité de la personne. Voilà. Alors c'est vrai que ce sont des questions qui vont être de plus en plus débattues dans les mois à venir et les années à venir. Donc, tu ne tueras pas, c'est absolu. Je n'ai pas le droit de tuer une personne humaine. Mais j'ai le devoir d'agir pour qu'elle ne souffre pas. Voilà. Donc c'est là aussi que la question aussi est délicate. Donc il peut y avoir nous allons administrer un calmant de plus en plus fort, qui peuvent avoir une influence aussi secondaire, mais ce n'est pas la mort qui est recherchée, c'est d'abord l'allègement de la souffrance. Oui, mais c'est l'allègement de la souffrance qui est recherché. Et là, quand même, l'Église dit que nous devons tout faire pour alléger la souffrance. Parce que la souffrance est quand même très difficile à porter. Voilà.
C'est pareil pour l'embryon. La dignité de l'embryon, c'est pas la conscience. Sinon, on aurait été là tout le
temps. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que là aussi, la question de la dignité, c'est la personne aussi. Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est une personne? Qu'est-ce que ça veut dire être une personne? Et actuellement, il y a une confusion. On est une personne quand on est conscient. Mais non, on est une personne, et cette personne a une faculté qui est la conscience. Mais l'âme et le corps forment la personne. La conscience est une faculté de la personne.
Dans nos cœurs, ils retentissent encore des rappels de Jean-Paul II. Soyez les hommes et les femmes de la conscience. Cela signifie que nous avons les moyens de distinguer les bien et les mal. Ce sont les moyens qui restent en union avec Dieu. Donc c'est lui qui a une conscience bien formée. Il est toujours avec Dieu. Et toujours avec la loi naturelle.
Oui, mais c'est vrai qu'il faut l'éduquer.
Ça, oui.
Voilà, parce que si elle n'a pas reçu cette éducation, eh bien, vous voyez, aujourd'hui, je prends l'exemple pour faire rire un petit peu, si vous voulez, mais qu'il y avait une personne qui était venue se marier. Donc ça faisait 18 ans qu'ils vivaient ensemble. Mais donc, elle m'a dit, ah, monsieur le curé, on ne pourra pas se pêcher d'avoir un enfant sans être marié. Non. Ça fait 18 ans qu'ils étaient ensemble, mais non, ne faites pas de soucis, monsieur le curé, là, on n'aura pas un enfant, c'est... Voilà. Bon. Eh bien, et elle était de bonne foi. Elle était de bonne foi. Mais seulement, seulement aujourd'hui, la conscience est vraiment déformée.
Il y a une école. Il y a une école de 100% de réussite. C'est formé sur la spiritualité de Marc Robin. Et ça, ça consiste à former les consciences des jeunes.
Oui, il y a la spiritualité de Marc Robin, mais il y a aussi la spiritualité de beaucoup d'autres communautés, de beaucoup d'autres fondateurs, de beaucoup d'autres saints et saintes, ça c'est vrai. Mais l'essentiel, c'est cette éducation.
J'ai eu l'occasion d'avoir une controverse avec un ecclésiastique, ancien médecin, qui avait pu justifier certains cas d'avortement dans des cas de détresse de la mère. Donc j'avais écrit de façon un petit peu virulente, peut-être. Et
il faut mettre près de la bruit.
Il me faudrait peut-être revoir la notion du moindre mal. Comment vous situez ce moindre mal par rapport à cette conscience, c'est-à-dire donner le bien?
Alors, le moindre mal, c'est toujours un mal. Hein? Donc, je pense que Paul VI, dans Humanité, a très bien répondu à la question. Paul VI a dit qu'il y a des cas où on peut tolérer un moindre mal, mais on ne peut pas faire un moindre mal. Donc, tolérer un moindre mal, il y a toujours une certaine violence. Hein. Qu'est-ce que vous voyez bien actuellement, la question du viol. Hein. Bon, eh bien, saint Thomas d'Aquin dit, la personne ne peut pas se tuer pour ne pas être violée. Et bien évidemment, ça me fait mal de dire ça, et ça je ne vais pas vous faire mal vous non plus, mais je veux dire, dans ce cas-là, elle est agressée, elle le tolère, mais elle ne le fait pas. Et l'avortement ne peut jamais être considéré comme un moindre mal, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Bon, maintenant, les militaires sont affrontés à cette question du moindre mal. Donc là aussi, peut-être que l'un ou l'autre pourrait nous répondre comment, justement, on tolère un moindre mal. Voilà. Et dans quelle mesure, justement, on fait ou on tolère ce moindre mal. Voilà. Parce que je pense que c'est un grave devoir de conscience pour un militaire. Claude, peut-être, ne pourrait pas nous répondre, là. Si, parce que c'est important d'avoir votre expérience. C'est important pour nous parce que vous travaillez pour le bien, vous ne travaillez pas pour le mal. Il faut parler fort, près du micro. Très près du micro.
Oui, c'est sûr que... Tuer en soi, c'est intrinsèquement immoral. Donc, inévitablement, on se pose cette question. Et parfois, le soldat, mais oui, essentiellement le soldat, hein, parce qu'il est détenteur de la force, le soldat est amené à donner la mort pour un bien plus grand. Hein. Alors là, on oublie la notion de moindre mal, on pense à un bien supérieur, qui est celui de protéger notre vie en général. Mais c'est vrai qu'on doit obligatoirement mener cette réflexion. Sinon, on ne peut pas être un bon soldat.
Mais là aussi, je dirais que vous êtes dans une situation de... Vous avez le devoir moral de protéger l'innocent et le faible. Donc on est contraint. Voilà, je pense que Jean-Paul II a bien dit la chose. On est contraint de désarmer le coupable. On est contraint de... Voilà. Alors bon, ben, dans la contrainte, on n'essaye pas peut-être de le tuer, mais c'est bien cela qui peut arriver.
Oui,
Mais c'est une question difficile et délicate et qui tourmente tout le monde. Oui.
Notre conscience se forme aussi par l'écriture et la tradition de l'Église. Or, il existe des courants actuels de théologiens et de prêtres qui nous disent que, avant de faire une exégèse biblique, il faut voir ce que nous dit la science et quelle vérité scientifique va aller contre la Bible. Et donc, notamment pour la Genèse, certains disent que Dieu a permis de faire une transgression pour un plus grand bien, pour qu'on puisse vraiment voir, avoir conscience de la liberté.
Et alors, quelle est votre transgression?
Alors, c'est la mise en garde de Bible,
oui, d'ailleurs,
qui sort, qui met en première partie les sciences actuelles, à égalité avec la Bible, même supérieure à la Bible. Et puis aussi des catéchèses qui expliquent le Big Bang, qui expliquent le darwinisme, qui sont bien sûr très supérieurs à la Bible. Bien sûr, on sait tout ça, le progrès de l'évolution.
Voilà, alors là, bien sûr, c'est un problème un peu plus difficile, parce que on entre dans le domaine scientifique, et nous, on parle aussi du problème de la révélation. Voilà. Alors c'est vrai que, comme vous le dites, c'est vrai, beaucoup ont remis en question la Genèse pour sous prétexte de découvertes scientifiques qui ne sont pas encore vérifiées. Voilà. Alors donc, ce qu'il faut bien dire, c'est que nous, dans la Genèse, on est sur le pourquoi de la création de l'homme et non pas sur le comment. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on mélange les plans, hein, parce que Dieu nous révèle pourquoi il a créé l'homme, pourquoi l'homme est sur la terre, et nous laissons les scientifiques continuer leur travail pour découvrir le comment. Mais en même temps, c'est vrai que une évolution qui prétendrait que l'homme vient uniquement de la matière inférieure sans recours de Dieu, nous ne pouvons pas l'accepter. Ça, c'est évident. Parce qu'il est évident que l'homme est créé par Dieu. C'est évident. Et que l'homme il y a un saut tellement grand entre l'animal le plus évolué et l'homme qu'il est évident qu'il y a l'action de Dieu. Ça, c'est évident.
Dans plusieurs exemples qu'on vient d'avoir, il est question de l'intention de l'acte par rapport à son caractère moral, par exemple, par rapport à l'euthanasie, l'intention de donner la mort ou l'intention de soulager la souffrance, ou dans le cas des militaires, l'intention de protéger plutôt. Et du coup, quel est ce lien un petit peu entre l'intention de l'acte et la conscience morale?
Alors, pour la session au mois de juillet, on va développer davantage cela. Mais il est évident que la conscience morale donc doit prendre en compte les conséquences et l'intention. Mais, comme l'a dit Benoît XVI et comme l'a dit Jean-Paul II, nous ne pouvons pas nous décider pour un acte uniquement en fonction des conséquences bonnes ou des conséquences mauvaises. Nous ne pouvons nous décider que pour un acte que parce que l'objet que nous avons choisi est bon. Je ne peux pas choisir un mal pour un bien. Bon, par exemple, je veux venir en aide à des populations qui souffrent. Bon, regardez l'Afghanistan, par exemple. Si vous voulez faire gagner de l'argent à tous ces pauvres paysans, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre en place un trafic de drogue. Vous allez faire gagner de l'argent à tout le monde. Eh bien, je ne peux pas. Même si mon intention de faire gagner de l'argent aux pauvres eh bien, est une bonne intention, mon acte ne peut pas être de mettre en place un trafic de drogue parce que cela émane.
L'enfer est pavé de bonnes intentions.
Voilà, oui, oui. Mais est-ce que vous avez des témoignages, Loïc, là ? Ah, mais vous voulez dire quelque chose, Laurence ? Oui, oui, allez-y, 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 on passera à Loïc après.
Oui, je voulais juste savoir, on sait tous que le bébé est une personne. Le problème, c'est que nos juristes n'ont pas statué sur le statut de l'embryon, justement. Personne n'a dit le bébé et l'embryon est une personne. Alors, comment avoir un discours sur la conscience à des personnes qui nient la dignité de l'embryon comme personne humaine ?
C'est bien la question fondamentale que personne ne me posait au Parlement en ce moment, aussi bien de droite que de gauche. C'est la question qui les dérange pleinement. Donc le problème, il est là, il est de dire, comme le professeur Jérôme Lejeune l'a dit, aujourd'hui, nous avons une connaissance du génome humain qui est suffisante pour dire, nous avons en face de nous un être humain. Alors, l'Église dit, cet être humain, dès le premier moment de sa conception, a tous les droits de la personne humaine. Mais ce qui est aujourd'hui paradoxal, c'est que nous avons, dans les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée, des francs-maçons qui sont allés chercher des textes de l'Église il y a plusieurs années pour dire « mais l'Église disait que l'âme spirituelle n'arrivait qu'au deuxième ou au troisième mois ». Comment ça se fait que l'Église a changé son argumentation aujourd'hui ? Eh bien, l'Église aujourd'hui ne se fonde pas sur la question de l'âme spirituelle, elle se forme sur la question du patrimoine génétique. Et pour dire, dès le début, nous avons un être humain qui a tous les droits de la personne humaine. Et Benoît XVI l'a dit, donc lors de la dernière veillée pour la vie, il faut le considérer comme une personne.
Oui, je voulais juste dire par rapport à toutes les interventions que vous avez faites ce soir, qu'elles concernent la conscience ou la vérité, moi, à chaque fois, ça me fait penser au mot courage, qui devrait revenir finalement, parce que les trois sont complètement liés. Et c'est vrai que pour intervenir dans le domaine du courage dans l'entreprise, ce qui me concerne, la question que vous posiez tout à l'heure aux militaires, on peut se dire aussi que lorsqu'on est dans l'entreprise et qu'on est à un poste de responsabilité, est-ce qu'on a conscience d'annoncer la vérité d'une situation difficile qui peut avoir des conséquences de licenciement, que l'on peut très bien traiter avec courage et dans le respect de la personne ? Au passage, je complète votre écran publicitaire pour dire qu'il n'y a pas que le catéchisme de l'Église catholique, il y a aussi le compendium de la doctrine sociale de l'Église qu'il faut vraiment avoir lu. Fin de l'écran publicitaire. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au niveau du courage, il y a quatre défis. Il y a celui de la discipline, donc avec les règles du jeu. Il y a celui du sens et de l'inspiration, celui des résultats, et puis enfin celui de la confiance. Et je pense qu'on peut difficilement dissocier conscience et vérité avec le mot courage. Voilà ce que je voulais rajouter.
Est-ce que le sacrement de la réconciliation peut être en aide à former la conscience, à la rendre plus sensible ?
Bien sûr.
Lui donner la capacité de s'unir, de se fortifier ou bien ?
Alors, vous touchez là un point très important. Le sacrement de la réconciliation, bien sûr, va former la conscience. Bien évidemment. Parce que déjà, le sacrement de la réconciliation... C'est une démarche du pénitent qui vient reconnaître son péché. Et en plus, il y a la grâce sacramentelle du sacrement qui va venir aider à fortifier, à développer la conscience.
Père Bernard, tout à l'heure, il y a le frère Xavier qui avait cité les erreurs de la conscience, et notamment, je voudrais revenir sur l'ignorance massive. Comment est-ce qu'on pourrait la corriger, d'autant plus que dans certaines coutumes, notamment en Afrique, il y a des habitudes qui sont tellement ancrées et transmises de génération en génération que les jeunes qui sont formés ne les conservent pas comme étant une erreur de la conscience. Si je prends le cas du mariage, deux jeunes qui veulent se marier, il y a une étape qui est le mariage coutumier, qui est en fait la demande en mariage auprès des parents, avec une dot, tout ça. Et dès cet instant, sans qu'il y ait célébration, le jeune époux peut prendre avec lui, disons, son épouse. Et déjà, il peut s'installer et vivre maritalement. Lorsqu'on refuse en disant « mais non, j'attends d'abord mes fiançailles, ensuite mon mariage », très souvent, les parents sont très offusqués. Et mon épouse et moi avons vécu ça, c'était difficile, mais comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui, quelques idées, hein, pour essayer de corriger cette erreur, puisqu'elle existe et elle est transmise, parce qu'elle a vraiment une force très importante dans l'éducation de nos jeunes générations.
Alors, je pense que c'est le problème de l'acculturation de l'Évangile, hein, parce que ce qu'a dit frère François avec le cardinal Newman, donc le Christ ne vient pas prendre la place de notre conscience, mais il vient comme cette lumière surnaturelle animer la lumière naturelle de notre conscience. Alors, il se fait que je pense que petit à petit, par la pénétration de l'Évangile dans les cultures, eh bien, petit à petit, on arrivera à éclairer ces cultures et à transformer ces coutumes. Mais il faut du temps, parce que d'un certain côté, nous avons presque 1950 ans d'évangélisation, hein, puisque ici, à Sens, nous sommes au cœur de l'évangélisation première, hein, puisque vous savez que Paris dépendait de Sens, s'il vous plaît. Hein, donc ici, on est supérieur à Paris. Hein, donc l'archevêque de Sens avait l'autorité sur Paris. Hein, donc Sens a été évangélisé par des disciples de Saint-Pierre, donc dans le premier siècle. Alors voyez comment nous sommes après 1950 années d'inculturation de l'Évangile. Voilà. Donc l'Afrique est un continent qui vient d'être évangélisé, même s'il y a 150 ans, même puisque la Côte d'Ivoire on a fêté les 100 ans en 1997, non? Oui. Donc avant que l'Évangile puisse pénétrer pleinement la culture, il faut vraiment beaucoup d'années. Voilà. Mais on y arrivera.
Il y a deux éléments qui me semblent éclairer aussi cette question. C'est le premier chez saint Alphonse de Ligori. C'est la distinction que fait saint Alphonse entre le péché formel et le péché matériel. En disant, effectivement, quelqu'un qui n'est pas conscient de faire quelque chose de mauvais, parfois, il n'est même pas bon de lui dire qu'il fait quelque chose de mauvais, parce que s'il n'a pas la capacité de changer son comportement, il va formellement pécher, c'est-à-dire il va effectivement subjectivement pécher, alors que si on ne lui dit pas, au moins on ne le met pas dans une faute. Donc déjà, alors ça, c'est un peu délicat évidemment, mais c'est Saint Alphonse de Ligori qui est quand même le grand patron des confesseurs. Et puis la deuxième chose, c'est ce que Jean-Paul II appelle la loi de gradualité, qui invite aussi à reconnaître que tout le monde ne peut pas d'un coup, comme ça, observer la norme morale, l'exigence morale, et par conséquent, on doit respecter aussi, ce que vous disiez, le temps. Quoi.
Voilà, alors là, c'est bien sûr, il faut voir dans quel domaine on se situe, puisqu'on est aussi en plein débat actuellement au niveau de ces récidivistes. Donc, leur conscience ne peut pas être éduquée et vu le mal qu'ils peuvent faire, a-t-on le droit aussi de les laisser agir voilà. Parce que là aussi, évidemment, celui qui ne peut pas... Je connaissais quelqu'un, il ne pouvait pas s'empêcher après un repas de voler le cendrier dans tous les restaurants. Alors, il avait une collection chez lui, donc tous les cendriers qu'il avait volés dans les restaurants, parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de faire ça, c'était son job. Bon. là aussi, c'est vrai que... C'est difficile aussi de savoir jusqu'à quel point, parce que c'est notre responsabilité de prêtre, hein, jusqu'à quel point doit-on laisser quelqu'un dans cette conscience erronée. Voilà. C'est un problème délicat. C'est vrai que c'est un problème délicat. Alors, c'est vrai aussi qu'il ne faut pas se dire, il ne faut pas que j'apprenne trop. Hein, parce que En Italie, par exemple, le feu rouge, c'est simplement une indication. Pardon, hein. Mais en France, le policier vous dira, il n'y a pas de problème. Hein, donc, vous aurez voulu dire que si vous avez une conscience erronée, que vous ne savez pas que c'était le rouge, vous êtes un peu daltonien, vous êtes... De toute manière, dans le civil, on est beaucoup plus rigoureux que dans l'Église, finalement. Voilà, parce que la loi, c'est la loi. Et... Bon, on va peut-être... Oui.
Une question par rapport à tolérer le moindre mal et faire le moindre mal. Le cas, par exemple, des interventions du groupe du GIGN dans les prises d'otages. On est tous soulagés quand les premières otages sont...
Oui, mais là, je pense que là aussi, c'est un militaire qui peut mieux répondre que nous. C'est-à-dire que là, il y a quand même la béatitude, bienheureux les pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu. Donc, je n'ai pas le droit de laisser un assassin tuer des innocents et ne rien faire. Donc, je veux dire, le problème, il est désarmer l'agresseur. Voilà. Alors, le moyen que je vais prendre, moi je ne suis pas dans le GIGN, mais je ne sais pas si François a quelque chose à répondre.
Disons que la réflexion sur le moindre mal apparaît comme celle d'un tiers observant le phénomène. L'engagement d'une force armée, même spécialisée pour libérer des otages. Mais l'acteur, que ce soit le politique, prend la décision de l'engagement de ses soldats, c'est une chose, il va avoir un jugement qui va quand même tenter de peser les choses. Est-ce que c'est la notion de moindre mal qui est là? Je pense pas. Ça, c'est une réflexion, à mon avis, de tiers, de l'observateur, du type de Pascal, du philosophe ou du religieux, et qui va. Mais l'acteur, donc là, je reviens au soldat, va avoir une mission et il va réagir effectivement là en revanche dans la maîtrise de l'emploi de la force pour adopter une tactique et qui va consister en tout cas dans l'intention à aboutir au prix de sa vie d'ailleurs mais pour réussir. Donc et là encore il faut distinguer la phase de préparation et la phase de l'exécution. Et chacun sait que, même sur ces opérations ponctuelles, c'est le royaume des contingences, et que toute l'histoire n'a pas été écrite au moment de la planification. Qu'il faut bien une part de l'exécution, où l'ingrédient humain, dans certains cas, fera que le plan s'exécutera parfaitement, et dans d'autres, des contingences feront que ça va mettre en valeur l'habileté manœuvrière, parfois du bon camp, parfois de l'autre et du mauvais camp. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il y a en synthèse. Puis comme vous m'avez donné le micro, je profite pour ma propre réflexion personnelle sur l'examen de conscience. Donc, le soldat catholique... On peut dire que le questionnement est un questionnement, comment dirais-je, au long de la vie, et qu'il s'approfondit avec l'éducation, les progrès dans la foi. On parlait du sacrement de réconciliation, et peut-être une clarification que le Seigneur opère dans la personne. Je sais que pour ma part, j'ai été très marqué par l'histoire du général syrien Naaman. Donc dans l'Ancien Testament, le général qui guérit sa lèpre, en allant voir Élisée, je crois. Mais c'est la suite de l'histoire qui intéresse le soldat. C'est parce qu'il revient sur ses pas pour demander à Élisée et faire part de son problème de conscience. C'est-à-dire que, comme général, son roi s'appuie sur lui Donc il est le tuteur de son roi pour aller adorer, qui va adorer son dieu, qui est donc une idole. Et le général s'est converti au dieu d'Élysée. Donc il fait demi-tour et il dit non, bon, est-ce que je peux toujours tenir ce rôle? Et la réponse, elle est rassurante pour un amant. Parce qu'Élysée a compris la conversion intérieure et les circonstances, certainement, il lui dit qu'il peut poursuivre. Je trouve que j'ai une réponse, moi, celle-là.
Oui, et puis je pense que c'est là que l'on voit que nous sommes dans, justement, le problème de la conscience morale, c'est que, bon, si notre conscience a été bien formée, hein, voilà, la Saint-Dérèse fonctionne bien, le jugement pratique a été bien mis en place, hein, donc je sais, je connais la loi naturelle, je connais toutes les, voilà, tout ce qu'on a pu tirer comme conséquence, mais il me reste encore mon jugement prudentiel. Et ça, le jugement prudentiel, c'est personnel. Voilà. Et c'est-à-dire que là, eh bien, personne ne peut dire dans tel cas, dans telle situation, à tel moment, eh bien, c'est là que j'aurai la lumière de Dieu, hein, avec ma bonne volonté, mais c'est là qu'il faut se dire, nous sommes dans un monde où le mal est présent. Voilà. Et dans ce monde où le mal est présent, eh bien, il y a une solidarité avec le bien, il y a une solidarité avec le mal. Et c'est vrai qu'en même temps, il faut que je sois solidaire avec le bien, il faut que je sois lumière du Christ dans ce monde, et que, eh bien, que quelquefois, eh bien, je préférerais donner ma vie plutôt que de collaborer avec le mal. Et je comprends ce que vous voulez dire aussi, quand... Bon, on voit l'expérience en ce moment des hommes politiques. Bon, si l'homme politique ne veut absolument pas collaborer avec le mal, aujourd'hui, qui va devenir un homme politique? Alors, c'est là que Jean-Paul II, dans Evangelium Vitae, a donné une réponse importante. Donc, il a dit, si vous êtes... Dans un gouvernement, eh bien, actuellement, normalement, si mon gouvernement a voté la loi sur l'avortement, je suis dans ce gouvernement. Bon. Alors, soit je dis je ne m'engage pas en politique, soit je dis ben, je veux m'engager en politique pour faire advenir la doctrine sociale de l'Église. Alors, donc, Jean-Paul II dit, même si maintenant je ne peux pas encore faire supprimer la loi, il faut que je m'emploie à en réduire les conséquences. Voilà. Hein, et je pense que il faut donner un coup de chapeau aux 12 députés de l'UMP qui se sont battus jusqu'à 4 heures du matin, dans la nuit de Notre-Dame de Lourdes. Hein. Ils se sont battus jusqu'à 4 heures du matin pour arriver à faire accepter qu'on ne puisse pas faire de recherche sur l'embryon. Eh bien, ils n'ont pas pu gagner. Mais ils ont fait tout ce qu'ils ont pu jusqu'à 4 heures du matin. Voilà, je crois que c'est vrai qu'on se trouve affronté à des problèmes difficiles. Et je pense que là, ben, il faut s'en remettre à Dieu après. Hein? Nous, on fait de notre mieux. Donc c'est vrai qu'on ne doit pas faire le moindre mal, ça c'est vrai, on ne doit pas faire le moindre mal. Donc il faut vraiment qu'on soit contraint d'un certain côté, voilà, qui est quand même une contrainte morale, hein, contrainte physique ou morale, mais qui est quand même une certaine contrainte. Parce que sinon après, on justifie trop facilement sa conscience aujourd'hui avec la question du moindre mal. Bon, je crois que maintenant il faut qu'on aille se coucher, on a dit qu'à 10h on devait terminer. Bon, alors chacun pourra dire les complis. La prière que vous voulez, vous avez le texte dans les livrets, là, comme vous avez les prières, hein, vous en trouvez une chapelle. Et puis donc, demain matin, nous chantons les godes à 7h. Alors, tous ceux qui peuvent venir, nous les invitons. Et le petit déjeuner, donc après les godes. Et on se retrouvera à 8h30 demain matin pour le troisième forum. Voilà.